bienvenue au Grand Procès des écrivaines, présidé par Frédéric Lantieri.
Alors, mesdames et messieurs, l'audience est ouverte. Nous allons donc juger au cours de ce procès deux femmes accusées de troubles à l'ordre patriarcal et aux lois de la nature qui, je vous le rappelle, imposent aux femmes de se consacrer au bien-être du foyer, à leurs enfants et à leurs maris. Donc j'appelle mesdames Victor Laszlo et Suzanne Dracius, s'il vous plaît, les accusées. Je vous demande de prendre place sur le rang des accusées. Avant de vous entendre, nous allons donner la parole. Donc, avant d'entendre les accusés, nous allons donner la parole au ministère public qui va détailler les charges qui pèsent sur vous, mesdames. Auparavant, je tiens à faire une petite mise au point. Ce procès est une fiction, donc toutes celles qui interviennent, notamment en qualité de témoins à charge ou de procureurs, ne sont pas comptables de ce qu'elles vont dire. Je suis désolée d'insister, mais elles ne sont bien évidemment pas d'accord avec les arguments qu'elles vont nous exposer. Il s'agit même d'une démonstration par l'absurde pour nous présenter, au contraire, donc, la violence, la dangerosité et même l'inanité des arguments qui entendent museler les femmes et les empêcher d'écrire. Mais ces arguments, eux, eh ben, hélas, ils ne sont pas toujours fictifs. Et d'ailleurs, en France, rien n'est gagné. Même si aujourd'hui, les écrivaines ne sont plus soupçonnées de frigidité, d'infertilité ou même d'hirsutisme, elles sont parfois désignées ironiquement comme des bas-bleus ou des viragos. Et certains discours à peine voilés les accusent de porter atteinte à la famille et à la société. Et puis leur place n'est pas acquise. Hein. Les femmes constituent ainsi environ un tiers des écrivains, de l'effectif des écrivains, proportion qui se retrouve dans la consécration littéraire du jury féminin, à peu près 35% depuis 1904, date de la création du prix féminin. En revanche, concernant le prix Goncourt, en un siècle, en 100 ans, la proportion des femmes, alors là, c'est carrément ridicule, il y a seulement 9 lauréates, donc sur 100 ans. Quant à l'Académie française, on sait qu'il y a seulement 3 femmes qui ont été adoubées à l'Académie française. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus assister à un grand procès passionnant et qui ne manquera pas de susciter indignation et interrogation. Parce qu'ici se joue l'avenir des écrivaines, leur place au sein de notre société ou même leur bannissement. Je demande donc à nos procureurs, mesdames Faouzia Zouari et Sylvie Leclèche, d'exposer les thèses de l'accusation. Madame Sylvie Leclèche.
Le 14 février 2023, lors de la remise de décoration dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, de l'éditeur X, éditeur de l'accusé, dans les locaux de la Société des gens de lettres, l'accusé s'est avancé et a interrompu le discours du président. Pendant 3 heures, elle a rappelé les discriminations dont elle prétend faire l'objet de la part de son éditeur. Elle a demandé au public de manifester son indignation très vive et pris à témoin l'épouse du chef de l'État présente. Maîtrisée par les huissiers assermentés, elle est sortie de la salle, provoquant un mouvement de panique au cours duquel plusieurs personnes ont été malmenées. La semaine suivante, elle a utilisé la plateforme d'échange du Parlement des écrivaines francophones, dont elle est membre, et les réseaux sociaux pour envoyer des centaines de messages appelant au boycott de la maison d'édition. Elle a organisé des attroupements aux abords du ministère de la Culture. Elle bénéficie d'une tribune dans un organe de presse national qu'elle utilise pour dénigrer son éditeur et appeler au retrait de tout soutien financier public. Le caractère répétitif et violent des propos tenus, les attroupements organisés sur la voie publique et dans des locaux privés sont assimilables à un trouble à l'ordre public et à un abus de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. L'accusé a par ailleurs fait l'objet d'une garde à vue de 24 heures le 25 février 2023. L'accusé se présente comme parlant au nom de toutes les femmes de tous les pays. Elle a abusé des facultés offertes par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Par ses propos et agissements, elle s'expose à avoir qualifié les faits de dénigrement et de diffamation. Au titre de la loi de 1881, les écrits parus dans la presse nationale sont de nature à heurter l'honneur ou la considération de son éditeur. Le dénigrement peut être invoqué puisque l'accusé a publiquement jeté le discrédit sur les produits, l'entreprise et la personnalité de son éditeur. Plusieurs témoins qui l'ont fréquenté à titre professionnel ou personnel affirment qu'elle a un comportement clivant. D'une hypersensibilité à la notion d'injustice, l'accusé s'appuie sur ses travaux sur les femmes en précarité sociale et aux histoires familiales éprouvantes pour se victimiser. Elle prétend que sa vie de femme écrivaine l'expose à des inégalités de traitement. Son style lyrique, son argumentation catégorique, son art du double langage et de la dissimulation laisse penser qu'elle est atteinte de perversion narcissique ou d'histrionisme. Elle aime se mettre en scène. Son but est de séduire et si elle n'y parvient pas, elle cherche à dénigrer l'autre. Submergée par ses émotions, elle est une proie facile pour les manipulateurs. Animée au contraire par une raison froide, deuxième volet de sa personnalité, elle devient manipulatrice, elle est victime ou bourreau. Une femme qui écrit se livre à des interventions dans l'espace public ou en public dans un espace privé. Elle fait preuve d'hubris et d'orgueil. Elle présente un danger pour elle et pour les autres femmes.
Vous demandez quelle peine alors,
Je demande, Madame la Présidente, de prendre à l'encontre de l'accusé une sanction pour attroupement. Punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, assortie d'une sanction de 5 000 euros pour dénigrement. Eu égard aux circonstances atténuantes psychologiques et sociales, la peine peut être commuée en travaux littéraires d'intérêt général. Je vous remercie.
Merci, Madame le procureur. J'appelle Fazia Zouhari, qui va, elle aussi, au nom du ministère public, nous détailler l'accusation.
Madame la Présidente, permettez que mon réquisitoire soit effectivement dirigé vers celles parmi les accusés qui viennent du Sud comme moi et se réclament de la culture arabo-musulmane. Parce que je partage leurs origines, je saurai identifier leur infamie. Parce que je connais la place et le rôle qui devrait être les leurs, je ne manquerai pas de dénoncer leurs écarts et leurs transgressions. Mesdames les accusées, il est dit et écrit, et nous l'avons répété depuis 14 siècles, que les hommes ont prééminence sur les femmes, qu'à ce titre, il revient aux femmes de se taire et aux hommes de parler et d'agir à leur place. Et voilà que vous inversez les rôles. Voilà que vous passez outre les préséances et les règles. Voilà que vous vous mettez à dire en s'étant à cause de vous devenu sacrilège. S'il est vrai que la parole fut donnée à quelques femmes, comme cette folle de Sherazade, il ne leur fut pas permis d'écrire. Souvenez-vous, seul le registre de l'oral fut concédé à cette rescapée de la loi des hommes. Et si nous avons autorisé le compte, c'est pour signifier que l'écriture est interdite, tout simplement. Madame la Présidente, je ne saurais compter le nombre de délits de ces femmes, parmi lesquels la trahison du secret tribal, l'outrage public à la pudeur, la concurrence déloyale, l'usurpation d'identité et la connivence avec l'étranger. D'abord une parabole pour vous édifier, puisque vous aimez les histoires. Un jour, une femme qui a beaucoup, beaucoup péché, et c'est dans la nature des femmes, a demandé à l'ange Gabriel d'intercéder auprès de Dieu pour qu'il lui pardonne ses péchés. Gabriel, dans sa bonté, monta au ciel et transmit la requête à Dieu, qui répondit « Va et dis à ma créature que je lui pardonne. L'ange redescendit tout léger avec le message. Mais la femme fit les yeux ronds. Mais enfin, Gabriel, vous devez vous tromper sur la sentence. Vous n'avez pas compris l'étendue de mes péchés que voici. Et elle énuméra adultère, inceste, et je vous passe le reste qui est dans la nature des femmes. Remonte, lui dit-elle, remonte et raconte à Dieu exactement comme je t'ai raconté. Gabriel, dans sa bonté, monta, raconta dans les détails. Dieu se fâcha et lança, va et dis à cette pécheresse qu'elle ira en enfer. Mais osa Gabriel, il y a un quart d'heure, vous me disiez le contraire. Et Dieu de lisser sa barbe en prononçant, mais mon bon Gabriel, il y a un quart d'heure, elle et moi étions seuls dans le secret. Maintenant, tu es le troisième. Trahison du secret, voilà le délit suprême, car vous faites semblant, mesdames, de ne pas savoir que vous êtes le secret lui-même, le concentré de l'identité du clan et le mystère caché de la tribu. Et vous voilà en train de dévoiler ce qu'il y a de plus intime en vous, en nous, à travers vos écrits, en l'exposant sous le regard de tous. Ce dévoilement de l'intime et ce manquement au devoir de réserve impliquent un autre délit, celui d'outrage à la pudeur. Vous choquez les fidèles en faisant étalage de vos sentiments, vos désirs, vos corps. Vous avez le culot d'ouvrir vos cœurs et vos jambes sous l'œil du monde entier. Vous aimez, vous vous dénudez, vous allez jusqu'à décrire vos ébats, vous jouissez et vous riez, vous pleurez sans vous retenir à chômage. L'autre délit dont je vous accuse est celui d'oser dire « je », là où la loi de la communauté exige de dire « nous ». Car il ne peut exister d'individualité en dehors de la Oumma. Il n'est guère de place à celui qui prétend que sa personne, son bien-être, sa parole ou sa liberté surpassent l'intérêt de la Oumma, encore une fois, et de son guide suprême, Allah, dans toute sa grandeur. Je ne manquerai pas non plus d'invoquer le délit de diffamation dont vous êtes coupable, car vous dites tant de choses sur les hommes et vous mentez. Vous leur collez tant de crimes et d'actes de violence dont l'humanité serait dispensée si vous n'étiez là à médire, ourdir des ruses et provoquer. Vous donnez de nos sociétés l'image du chaos et du désordre, alors que vous êtes la cause du chaos et du désordre. La concurrence déloyale est un autre de vos délits. Comment pouvez-vous prétendre écrire comme les hommes, voire mieux, eux qui tiennent la plume depuis la nuit des temps, pendant que vous croupissiez dans vos cuisines, eux qui vous ont transmis le savoir, la religion, la promesse de l'au-delà? Revenez donc à vos tâches. Tout le monde sait, vous jouez à la plume à défaut de laver vos casseroles, et quand vous écrivez, avouez-le, ce n'est que par jeu ou par ennui, quand ce n'est pas par esprit de revanche et amertume. Autre délit sacrilège, Madame la Présidente, celui d'usurpation d'identité. Car, après avoir volé le métier des hommes et leur vocation, voilà que vous volez la vocation de Dieu. Vous avez oublié que l'écrit lui appartient en premier. C'est lui le maître de la langue et l'auteur du texte suprême, le Coran. Qui mieux qu'Allah possède l'art du mot et le miracle de la langue? C'est Dieu qui détient la vérité et vous prétendez, vous aussi, raconter des choses vraies. C'est lui qui a le droit d'inventer les récits et vous prétendez le faire à sa place. C'est lui qui crée les intrigues et les personnages et vous vous appropriez le rôle de créateur. Allahu Akbar. Sachez que vous ne pouvez être que de vulgaires pasticheuses et des auteurs de seconde catégorie. Enfin, et ce n'est pas le moindre de vos délits, je vous accuse de connivence avec l'étranger. Car vous voilà à écrire dans la langue des infidèles, à traverser par l'esprit ou par le corps, qu'importe, les frontières, à faire entendre la voix des étrangers au milieu de vos pages et à faire passer leurs idées en voyageuses clandestines. Pour tout cela, Madame la Présidente, je réclame contre ces femmes la sentence la plus dure, brûler leurs livres comme au bon temps des sorciers, les réduire au silence et les condamner au sort de recluses perpétuelles.
Réquisitoire et sans appel, Madame l'avocat général. Je vais donc appeler les accusés pour leur défense, en tout cas pour exposer un petit peu les faits. Je vais appeler Madame Victor Laszlo.
Alors, Madame la Présidente, si vous le permettez.
Vous reconnaissez les faits?
Ah oui, bien sûr, je les reconnais. On m'accuse d'utiliser ma plume pour réécrire l'histoire, à l'aune de mes croyances et de mes certitudes, d'alimenter la misandrie ambiante, d'inciter à la haine. On m'accuse de proclamer haut et fort que la femme que je suis est issue d'une longue lignée de femmes violées, dans le consensus des pratiques esclavagistes et colonialistes. Bref, on m'accuse d'utiliser ma plume pour dire ce que personne ne veut entendre, la vérité. Suis-je un danger ? Oui, certainement. Pour toute personne qui se sent visée par mes propos, menacée par ma parole. Les certitudes ancrées dans l'histoire autorisée risqueraient de voler en éclats. Pourquoi suis-je devant vous alors que je ne fais rien d'autre que rappeler la vérité ? Pour ma défense, je voudrais vous raconter ce qui a présidé à ma naissance d'écrivaine, d'autrice. Dieu que je n'aime pas ces terminologies. À force de nous nier dans toutes les strates du discours officiel, on nous a forcés à revoir jusqu'à la terminologie qui nous qualifie. Enfin bref, je suis née dans une famille où ma mère avait comme seul projet de vie fonder une famille, choyer son homme et ses enfants, ses petits-enfants, pourquoi pas ses arrière-petits-enfants, jusqu'à ce que mort s'en suive. Je l'ai regardé aimer, travailler gratuitement pour lui, progressivement mettre en veilleuse, plutôt éteindre ses désirs non partagés, suer, demander sans obtenir un espace de liberté, un compte en banque, un permis de conduire, toutes ces petites choses que les combats féministes de ses contemporaines gagnaient de haute lutte. Elle ne les a jamais obtenues. Le seul espace qui lui fut accordé fut celui de la lecture. Elle dévorait et constituait une bibliothèque dans laquelle son mari n'a jamais eu l'idée d'aller fouiner. On se demande pourquoi. On y trouvait toute la littérature romantique anglaise, américaine, mais aussi Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Yourcenar, et des textes scientifiques sur l'appareil génital féminin. Alors très tôt, ma sœur et moi avons su ce qu'il nous fallait à tout prix éviter, ce qu'il nous fallait connaître pour gagner notre indépendance et notre liberté. Cela aurait pu marcher si nous n'avions pas tant aimé notre père. Mais ces mises en garde d'éviter le mariage, un piège à illusion, de travailler pour assurer nos propres finances, n'ont pas suffi. Nous nous sommes mariés, nous avons reproduit le schéma maternel, et si ce n'était l'évolution de la technologie, nous en serions encore à laver les chemises de nos hommes à la main et à épingler les couches de nos enfants. Mais pour échapper à cette fatalité, j'ai fait comme elle, j'ai lu, mais j'ai pris la plume. Et c'est cette plume qui m'a libérée, qui m'a permis d'échapper à ce que me préparait la vie. Sans elle, j'aurais continué à vivre bâillonnée et ma timidité m'aurait pour toujours empêchée de chercher la vérité et de la dire. La vérité, Madame la Présidente, la voici. On m'accuse de mettre ma plume au service de mensonges, culpabilisant pour les hommes, culpabilisant pour les Occidentaux, parce que je clame avec force que la femme que je suis est le résultat d'une longue lignée de femmes violées et abusées. Et avant d'accuser le système colonialiste de ces viols, moi, j'accuse les hommes. Ceux qui se sont complus dans ce système qui légalisait leurs actes. Cela a commencé il y a très longtemps avec l'esclavage. Ça a perduré parce que ces hommes estimaient être la seule justification possible à l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire le colonialisme, la colonisation, pardon. Ma grand-mère était une petite femme de ménage de 17 ans quand elle a été violée par son patron, de 50 ans son aîné. Elle-même était le fruit d'un viol perpétré par le fils de famille dont sa mère assurait la garde. Il n'y a que ma mère qui fit des enfants par amour sans pour autant échapper au schéma patriarcal qui l'enfermerait. La chose étant dite, elle devrait être acceptée et reconnue, tout simplement avec humilité et indignation, non ? Par les héritiers de ceux qui ont, durant des siècles et des siècles, profité d'une situation pour maquiller leurs crimes. Au lieu de cela, on me dit « mensonge, tu culpabilises les Blancs, la France, les hommes, tu nous forces à reconnaître un mensonge. La colonisation vous a apporté l'éducation, la science, la technologie. Ça vaut tout de même mieux que de continuer à grimper dans les arbres pour cueillir des noix de coco. » Tu utilises la misandrie du moment pour requalifier des amours ancillaires en viol. En cela, tu représentes un danger permanent pour la société et tu devrais être empêché de nuire. Voilà ce que j'entends et j'ai honte. J'ai honte de m'être tue si longtemps. On m'accuse de réécrire l'histoire à l'aune de mes croyances. C'est justement pour essayer de la comprendre, l'histoire, pour tenter d'accepter le comportement des hommes que j'ai travaillé sans relâche afin de ne rien travestir, de ne rien omettre, pour livrer des textes le plus objectif possible. Alors oui, Madame la Présidente, je suis dangereuse. Oui, je sais que je risque gros. Mais je préfère me sacrifier plutôt que de me soumettre à cette histoire officielle, car je sais qu'il est vital d'exprimer cette colère aujourd'hui. Sinon, nos sociétés futures se construiront, elles, sur des mensonges. Merci, Madame la Présidente.
Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez pris la plume ?
Oui, je m'en souviens. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans et j'avais été reléguée à mes poupées par mon père, qui trouvait que je me mêlais d'une conversation qui n'était pas de mon âge, une conversation sur le mariage.
Et c'était par vengeance, donc, que vous avez
pris
la plume ?
Non, pas du tout. C'était par... Non, pas par vengeance, Madame la Présidente, simplement parce que je sentais que si je m'exprimais ce jour-là devant lui, ça n'aurait servi à rien. Donc j'ai choisi un ami invisible pour m'exprimer, la feuille de papier.
Le jury appréciera. J'appelle maintenant Suzanne Dracius.
J'assurerai ma propre défense en plaidant d'une manière métissée comme ma propre personne, c'est-à-dire en plaidant à la fois coupable et non coupable en métissage et marronnage. Je suis coutumière du fait, voire multirécidiviste. Il y a un ouvrage collectif d'universitaires d'Europe, des USA, etc., qui s'intitule « Métissages et marronnages » dans l'œuvre de Suzanne Dracius. Les écrivaines ne sont dangereuses qu'aux yeux de ceux qu'elles combattent. Et c'est une excellente chose, car elles sont de vivants oxymores. Elles présentent un danger utile, notamment pour les sans-voix. Mon féminisme se pose en parallèle à l'anticolonialisme comme une prise en compte de l'altérité. Si féminitude rime avec négritude, les deux riment à la même chose. Négritude permet de se sentir bien dans sa peau de nègre. Féminitude permet de se sentir bien dans sa peau de femme. Et ça fait du bien aux hommes aussi. Féminitude n'est pas un néologisme. Une occurrence se trouve dans un entretien entre Beauvoir et Sartre, publié dans Situation 10, où Sartre parle de valeurs proprement féminines, valeurs secondaires par rapport à une réalité féminine éternelle, et Beauvoir intervient. Vous posez là une autre question, celle de la féminitude. Personne parmi nous n'admet l'idée qu'il y a une nature féminine, mais est-ce que, culturellement, le statut d'oppression de la femme n'a pas développé en elle certains défauts, mais aussi certaines qualités qui diffèrent de ceux des hommes. De même, la négritude permet de se sentir bien dans sa peau de nègre, mais pas seulement dans sa peau de tous les damnés de la terre, de manière universelle. Assurément, et avec assurance, pour sortir de leurs conditions minorées, les écrivaines sont dangereuses, mais en bonne part, et en légitime colère, en légitime défense. Quand elles s'érigent contre l'abjection, quand elles écrivent à quel point la gent féminine est non seulement victime de discrimination, d'infériorisation, voire de relégation, mais précipitée dans l'abjection, au sens étymologique du latin ab, loin d'eux, et iacchio, jeté. Dernier degré de l'abaissement, parce qu'en plus c'est jeté vers le bas, et de la dégradation qui fait tomber la femme, la tête la première, dans le mépris et l'opprobre, loin de toute considération. Quand, en 1832, George Sand publie son premier roman, dont le personnage principal est une jeune femme lassée par un mari antipathique et autoritaire, courtisée par un jeune séducteur peu fiable, l'écrivaine s'avère dangereuse pour les misogynes, car Indiana fait partie, ouvertement, des romans féministes, au sens où il dénonce les conditions de vie peu enviables des femmes en France, subissant les affres de la condition féminine, minorée, la phallocratie et le patriarcat omnipotent. Sand ne s'en cache pas. Lorsqu'opérant un net amalgame entre esclavage et mariage, clairement dénoncé, Elle plaide ainsi sa cause. Mais quoi ? Celle que je défendais est-elle donc si petite ? C'est celle de la moitié du genre humain ? C'est celle du genre humain tout entier. Car le malheur de la femme entraîne celui de l'homme, comme celui de l'esclave entraîne celui du maître. Et j'ai cherché à le montrer dans Indiana. Mais son héroïne, c'est une bourgeoise blanche. Ça a beau se passer à la Réunion, c'est une bourgeoise blanche. Donc il n'y a en elle guère plus de féminisme que chez Flaubert écrivant Madame Bovary ou Maupassant écrivant Une vie. Moi, j'ai en moi quatre continents et demi. En tant qu'afro-descendante, je préférerais afro-montante, mais bon, descendante d'esclaves, je me sens doublement proche d'Ésope, éthiopien esclave, ce qui me ravit, moi qui, paradoxalement, ne suis pas d'un modèle très répandu du fait de mon extrême métissage, tout en étant typiquement et 100% martiniquaise, née à Fort-de-France, avec en moi quasiment tous les sangs qui se sont mêlés plus ou moins volcaniquement. Le sang de l'Africaine, déporté en esclavage, du colon français blanc que nous appelons béqué, des Indiens à plume et sans plume, c'est-à-dire les Caraïbes métissés d'Arawak, les Amérindiens, quoi. Hein. Les Indiens de la vraie Inde par les West Indies, amenés après l'abolition de l'esclavage de 1848, surnommés pas très gentiment là-bas coulis, et une arrière-grand-mère chinoise pour pimenter le tout. J'ai donc double peine. L'intersectionnalité, je la subis de plein fouet. En tant que descendante de ces gens esclaves qui n'avaient pas le droit d'apprendre à lire et encore moins à écrire. Et puis, en tant que femme, ça fait double peine. Parce que c'est le même fouet qui cingla le corps de mes ancêtres esclaves et par-dessus le marché, en plus de la vente à l'encan en tant qu'humaine marchandise, être pire, être une marchandise féminine, c'est-à-dire qui coûte moins cher, qui est vendue moins cher que les hommes. Alors, il a fallu des femmes pour écrire tout cela. Ah, je plaide coupable, mais aussi sérieusement victime, surtout. Je sais pas, accusée de ce que vous voulez, mais surtout, surtout victime. Autrice, je revendique le terme, auctrix en latin, il existait en français, il est français. Autrice, vous n'avez pas de mal à dire actrice. Ne me dites pas que autrice elle est. Est-ce que actrice elle est? Ah, mais les actrices, c'était pas intellectuel, c'était souvent des femmes de mœurs légères.
Je vais appeler une témouine dont la jument de bataille a toujours été le féminisme, si je puis dire. Donc Isabelle Alonso, qui est tout à la fois écrivaine, comédienne, chroniqueuse, télé et radio.
Moi, je suis venue pour calmer le jeu, en toute objectivité. La forme féminine du mot écrivain, écrivaine donc, a longtemps crapahuté sur les chemins de la désapprobation des cuistres. Les arbitres des élégances et des faux pas en matière sémantique le rejetaient avec superbe. Ah non, ce n'est pas français. Exact, ce n'est pas français, c'est française. Et même certaines de ces femmes qui écrivent, donc pour employer des mots qui ne fâchent pas, refusaient et refusent encore de s'auto-qualifier de la sorte, tant elles craignaient et craignent toujours de se disqualifier par la même occasion, de se ranger d'elles-mêmes dans ce qui leur apparaissait comme une sous-catégorie. Enfin, elles craignaient ainsi de se dévaloriser. Être une grande écrivaine ne pouvait classer que dans une moitié de la population rangée dans le tiroir du dessous. Alors qu'un grand, une grande écrivain, ça, ça vous catapultait direct, ça vous ouvrait les portes de l'universel. Avait-elle seulement conscience que, tout au contraire, l'emploi du masculin pour définir une femme est le plus sûr moyen, c'est même là sa fonction, de l'invisibiliser. Que le combat se situe précisément là où le féminin devient équivalent, doit devenir équivalent, de même valeur. Le seul moyen de valoriser les femmes est de se nommer, de s'identifier, de s'affirmer en tant que femme. C'est-à-dire en tant qu'être humain qui n'a pas besoin de se réfugier dans les attributs des dominants. Changer l'axe horizontal du supérieur vers l'inférieur ou de l'inférieur vers le supérieur et lui le remplacer par un axe vertical d'équivalence à côté au lieu de dessous. Ça n'a pas été sans mal, mais écrivaine a fini par se frayer un chemin jusqu'à l'usage quotidien d'aujourd'hui. Écrivaine, autrice, ah, autrice, ça aussi ça fait mal à l'oreille, hein. Ce sont des noms maintenant pour les femmes de lettres, bas bleus, plumitives et autres scribouillardes, taquineuses de plumes, maîtresses des mots, fileuses de métaphores et redresseuses de tort, sculptrices de prose, modeleuses de rimes et gratte-papier addictives, nous. Alors, dangereuses ? Dangereuses. Nous serions en tant qu'écrivaines des femmes dangereuses. Sommes-nous armées ? Un stylo est-il un flingue, un clavier, une kalachnikov ? Dangereux signifie-t-il que nous représentons une menace ? Que quelqu'un a peur de nous ? Mais qui tremble devant nous ? Qui change de trottoir en croisant notre chemin ? Qui s'enferme à double tour en craignant notre intrusion ? Qui ? Mes sœurs, Anne et les autres. Moi, personnellement, je ne vois rien venir. Parce que se considérer dangereux, c'est peut-être flatteur pour l'ego, j'en conviens. Mais et qu'y a-t-il derrière ? C'est pas tout de le prétendre. Encore faut-il un minimum de biscuits, de munitions, d'arguments qui impressionnent, qui intimident, qui font reculer. Le signe qu'on est dangereuse, c'est qu'on suscite la crainte. Alors si vous pouvez me fournir des signes de crainte, même légères, de la part de l'ordre établi, j'en serais ravie, car inspirer la peur... Dans une culture machiste comme la nôtre, où tout repose sur un rapport de force physique, c'est déjà inspirer le respect. Et le respect, moi, personnellement, je ne le vois pas. En tout cas, chez les puissants. Je perçois davantage de mépris et de désintérêt qu'autre chose. L'Académie française, on en parle tout le temps, finalement, ça revient, hein, fondée en 1637, attend 1980 pour admettre une femme en son sein. Et là, on en est à trois. Qu'est-ce qu'ils ont la trouille ? Étaient-ils morts de peur, les immortels ? Non, plutôt enrobés de mépris, de condescendance, et c'est encore pire. J'en reviens très brièvement aux actrices évoquées tout à l'heure. Mais vendredi dernier, salle Pleyel, pour les Césars, il ne s'agissait pas d'écrivaines, mais il s'agissait de nos sœurs comédiennes, artistes. Le bras d'honneur du jury des professionnels du cinéma au mouvement MeToo respirait-il la crainte ou la morgue, le cynisme de ceux qui se considèrent comme au-dessus de la bataille ? Entre ces deux événements, l'Académie avant et les Césars maintenant, je ne vois qu'une longue tradition d'ignorance, de paternalisme, de sentiments de supériorité, de force d'inertie, de la cécité sereine des dominants persuadés qu'ils vont le rester. Rester entre eux, dans leur cocon d'entre-soi, tranquille, pépère. La seule femme dangereuse qui existe pour eux, c'est celle qu'ils ont inventée de toutes pièces, pour se faire peur, la femme fatale. Héroïne de tant de leurs romans et de leurs opéras, Mata Hari, Carmen, Lola Lola et les autres, causent la perte de l'homme. Irréel, mythique, ces créatures machiavéliques et mortifères, ces vampes, abréviation de vampires, je vous le rappelle, aux baisers funestes et aux vagins dentés qui dévorent tout ce qui le confie, ont ceci de rassurant qu'elles meurent toujours à la fin. Bien fini d'avoir défié l'ordre établi. Dans la vie, rien de tout cela ne risque d'arriver. Les hommes peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Les femmes ne représentent strictement aucun danger. Aucune écrivaine n'a jamais tiré sur personne, sauf Valérie Solanas sur Andy Warhol en 1968. Une balle en plus de 50 ans. Ça va. Non, les écrivaines ne sont pas dangereuses. Si les écrivaines sont dangereuses, c'est à la manière du médicament dangereux pour la maladie, à la manière de la digue dangereuse pour les inondations. Ou comme l'aube est dangereuse pour la nuit. Si les écrivaines sont dangereuses, mais alors les réverbères le sont aussi. Si les écrivaines sont dangereuses, alors les bougies dans l'obscurité dont parlait Eleanor Roosevelt le sont aussi. Alors dites-moi qu'elles sont talentueuses, subversives, provocantes, émouvantes. Dites-moi qu'elles sont drôles, inspirées, créatives, inventives. Dites-moi qu'elles sont novatrices, précurseuses, visionnaires, universelles. Mais dangereuses, laissez-moi rire. Nous ne faisons peur qu'aux imbéciles, bon, certes nombreux, aveugles à notre lueur dans le marasme. Nous éclairons notre propre chemin et ce faisant, nous éclairons aussi celui des autres femmes et hommes. Alors si ça fait peur à quelqu'un, tant pis. Non, tant mieux. Enfin, on s'en fout. Ouais.
Alors, des témoignages d'éminents hommes de science. Victor de Sèze, médecin député recteur d'académie, affirme en 1786, tout en reconnaissant que l'intelligence est commune à l'ensemble du genre humain, que néanmoins son emploi actif ne convient pas à tous et que ça serait fort nuisible pour les femmes. Il attribue à notre faiblesse naturelle, parce qu'il faut bien le reconnaître, on n'est pas pareil, hein, le fait qu'une trop grande activité cérébrale épuiserait nos organes et perturberait par conséquent nos fonctions reproductrices qu'un exercice excessif du cerveau mettrait en danger. Et il n'est pas le seul. George Bird, auteur de La nervosité américaine, joli titre, nous prévient « Pensée flétrit les ovaires ». Contrairement à la femme traditionnelle qui est centrée sur ses régions inférieures, la femme moderne est déformée à force de réfléchir. Et à preuve, il cite les travaux d'un distingué collègue qui a mesuré l'utérus des femmes instruites. Oui, il les a trouvées inférieures, tenez-vous bien, de moitié en taille à ceux des femmes qui n'ont jamais été exposées à l'enseignement. Ce n'est pas tout. En 1873, le docteur Edward Clarke publie un ouvrage intitulé « Sexe et éducation » dans lequel il cite des preuves solides, hein, provenant des études cliniques sur des intellectuels, eux, démontrant qu'un excès de connaissances a rendu ces pauvres créatures stériles, anémiques, hystériques et même folles. En 1906, l'anatomiste Robert Bennett déclare que le corps calleux, pour ceux qui ne connaissent pas, les fibres neurales réunissant les deux hémisphères du cerveau sont plus épaisses chez les hommes que chez les femmes. Au vu de ces preuves irréfutables, ces théories mises en place, certes, il y a un certain temps, mais qui se justifient chaque jour, comment ne pas affirmer que c'est dangereux pour les femmes d'écrire, pour elles-mêmes bien sûr, pour leur famille, mais aussi pour la société entière, pour le pays, le monde, l'univers. Après, bon, personnellement, je ne suis pas contre totalement certaines formes d'écriture. Pour la transmission, par exemple, c'est important. La transmission culinaire, par exemple, on pourrait écrire des recettes de cuisine. On pourrait donner des conseils et des astuces sur l'éducation des enfants, la tenue de la maison, je ne sais pas, moi, l'allaitement, la constipation des bébés, tout ça. On peut même écrire des choses un peu plus osées. Pourquoi pas ? Comment rendre heureux son mari, des choses comme ça. Parce que quand même, c'est bien si on peut échanger quelques expériences. Et même, oui, je suis une femme ouverte, je vais jusqu'à dire, j'ai un esprit très ouvert, pourquoi pas, écrire éventuellement des poèmes charmants, des nouvelles mignonnes sur la nature, la botanique, même un peu plus consistant sur la famille, la patrie, des valeurs comme ça. Mais pour l'amour de Dieu, pourquoi passer son temps si précieux à écrire des choses sales, laides, futiles, en délaissant ses devoirs familiaux ? Donc oui, bien sûr, comme les procureurs l'ont affirmé très justement en début d'audience, il y a non seulement le délit, Fawzia, n'est-ce pas, qu'il y a pour une femme de défier la loi de Dieu, le verset 33 de la sourate, les coalisés, c'est clair, il ordonne aux femmes de ne pas s'exhiber, et écrire, c'est s'exhiber. Ce, d'ailleurs, dans toutes les religions, sans exception. Bon, on parle beaucoup de l'islam en ce moment, mais bon, dans toutes les sociétés, c'est une menace, les femmes qui écrivent. Une femme qui écrit sort de sa réserve, de sa discrétion. Oui, elle décrit sans pudeur des sentiments, des émotions, des sensations. Elle parle même de son corps, de ses ébats, de manière totalement impudique. Il y a des femmes qui écrivent sur les 8000 terminaisons nerveuses de leur clitoris. Enfin, où va-t-on ? Et donc, oui, elle a une influence néfaste sur la société entière, car elle a une pensée libre, donc dangereuse. Une pensée libre, un corps libre, c'est dangereux. Comment affirmer le contraire ? Une femme qui raconte des histoires est donc coupable, sans aucun doute, messieurs.
Pour continuer dans la même verve, parce que quelqu'un a quand même trouvé une, il y avait une solution quand même trouvée qui était d'interdire aux femmes d'apprendre à lire et à écrire. Je vais donc demander à Sophie Bourrel de venir nous raconter cette solution envisagée qui, hélas, n'a pas été votée.
Projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. Motif de la loi. Considérant que l'amour honnête, le chaste hymen, la tendresse maternelle, la piété filiale, la reconnaissance des bienfaits, etc., sont antérieurs à l'invention de l'alphabet et de l'écriture et à l'étude des langues. Considérant qu'apprendre à lire aux femmes est un hors-d'œuvre nuisible à leur éducation naturelle, c'est un luxe dont l'effet fut presque toujours l'altération et la ruine des mœurs. Considérant que cette fleur d'innocence qui caractérise une vierge commence à perdre de son velouté, de sa fraîcheur, du moment que l'art et la science y touchent. Considérant que l'intention de la bonne et sage nature a été que les femmes exclusivement occupées des soins domestiques s'honoreraient de tenir dans leurs mains non pas un livre ou une plume, mais bien une quenouille ou un fuseau. Considérant combien il est dangereux de cultiver l'esprit des femmes, d'après la réflexion morale de La Rochefoucauld qui les connaissait si bien, l'esprit de la plupart des femmes sert plus à fortifier leur folie que leur raison. Considérant que les femmes qui se targuent de savoir lire et de bien écrire ne sont pas celles qui savent aimer le mieux, l'esprit et le talent refroidissent le cœur. Considérant que Marguerite de Navarre, première femme de Henri IV, aurait été moins galante si elle n'avait pas su écrire. Considérant que si Catherine de Médicis n'avait point su lire, il n'y aurait point eu en France de journée de la Saint-Barthélemy. Considérant combien la lecture est contagieuse, sitôt qu'une femme ouvre un livre, elle se croit en état d'enfer. Et femme qui compose en sait plus qu'il ne faut, Molière. Considérant que la qualité de femme qui sait lire n'ajoute rien aux titres sublimes et touchants de bonne fille, bonne épouse et bonne mère, ni aux moyens d'en remplir les devoirs doux et sacrés. Considérant que presque toujours, quand les femmes tiennent la plume, c'est un homme qui la taille. Le mathématicien Clairaut rendit ce service à Madame du Châtelet. Considérant que si les femmes, n'étant assujetties à aucune charge publique, à aucune fonction administrative, n'ayant pas même droit au fauteuil de l'Institut, elles n'ont nul besoin de savoir lire et écrire. Considérant que les femmes ont trop d'occupations dans leur ménage pour trouver du temps de reste à perdre en lecture et écriture. Considérant combien il doit être difficile, le ménage d'une femme qui fait des livres unis à un homme qui n'en sait pas faire. Considérant que Jeanne d'Arc sut bien délivrer la France sans savoir lire. Considérant combien il est choquant dans le langage ainsi qu'en morale d'être obligé de donner aux femmes des qualifications masculines telles que mademoiselle est auteur, madame est amateur, ou bien les femmes beaux esprits. Cette dissonance grammaticale tend à prouver que les femmes semblent abjurer leur sexe quand elles exercent les professions que ces mots désignent. Considérant que Dématis a dit, d'après les anciens, « La gloire d'une femme est de vivre ignorée !» et de rester ignorante, aurait dû ajouter Démastis pour dire tout ce qu'il pensait. En conséquence, 1. La raison veut, dut-elle passer pour vandale, que les femmes, filles, mariées ou veuves, ne mettent jamais le nez dans un livre, jamais la main à la plume. La raison ne veut pas. Elle ne veut pas plus que la langue française qu'une femme soit auteur. Ce titre sous toutes ses acceptions est le propre de l'homme seul. La raison veut que l'on dispense les femmes d'apprendre à lire, à écrire, à imprimer, à graver, à scander, à solfier, à peindre, etc. Quand elles savent un peu de tout cela, c'est trop ordinairement aux dépens de la science du ménage. La raison veut que les maris soient les seuls livres de leurs femmes, livres vivants, où nuit et jour, elles doivent apprendre à lire leur destinée. La raison souffre de voir les femmes grossir le troupeau des gens de lettres. Elles ont assez déjà des infirmités attachées à leur sexe, sans s'exposer encore à celles de cette profession. La raison ne conseille à personne de choisir pour épouse et compagne la fille d'une femme lettrée. La raison veut que les épousés, ne devant point savoir lire et par conséquent ne pouvant signer leur contrat de mariage, on se contente de leur consentement verbal devant le magistrat et les témoins. Une femme bien née ou bien élevée doit être crue sur sa parole. On remplirait plusieurs volumes in folio d'autorité grave, prouvant la nécessité et l'urgence d'une loi dans l'esprit de celle dont nous publions ici le programme.
Cette proposition de loi déposée en 1801 par un certain Sylvain Maréchal n'a hélas pas été votée.
Nous allons entendre Alexandra Schwarzbrod.
Oui, j'ai longtemps hésité avant d'accepter de témoigner contre ces femmes. Non pas que je manque d'arguments, loin de là, je n'aurai pas assez de ces 3 minutes pour vous prouver à quel point les écrivaines représentent un danger pour nos sociétés. Non, c'est plutôt par peur que cette intervention et toutes les autres leur donne trop d'importance. Regardez-les, la tête haute, le regard fier, elles sont au centre du jeu et elles le savent. Et c'est ça le plus dangereux, car il n'y a rien de plus déterminé qu'une femme qui se sent dans son bon droit, rien de plus inarrêtable qu'une femme qui croit mener le bon combat. Et je ne voulais surtout pas participer à cette mise en avant. Mais ma colère a été la plus forte et ma détermination entière. Après tout, ne suis-je pas une femme moi-même ? Pourquoi faut-il se méfier des écrivaines ? Parce qu'elles ont été empêchées pendant si longtemps qu'elles ne savent plus se fixer de limites. Elles débordent de tous les côtés. Regardez celle-ci. Écoutez, Virginie Despentes, lundi, dans Libération, à ses noms, on se lève et on se casse. C'est probablement une image annonciatrice des jours à venir. La différence ne se situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre dominés et dominants, entre ceux qui entendent confisquer la narration et imposer leurs décisions et ceux qui vont se lever et se casser en gueulant. C'est la seule réponse à vos politiques. Quand ça ne va pas, quand ça va trop loin, on se lève, on se casse et on gueule. Fin de citation. Vous comprenez maintenant pourquoi ces écrivaines sont un danger ? Des Virginie Despentes, il y en a plein partout, dans tous les pays, qui sont en train de se lever et de gueuler. Et même quand elles sont empêchées, elles donnent de la voix. Regardez Asli Erdogan, même en prison, elle faisait parler d'elle. Lisez Elif Shafak, dans le dernier roman, était une ode à la prostitution, à la perversion, à l'homosexualité. Et avant elle, Émilie du Châtelet, qui a montré par ses écrits qu'une femme pouvait être une aussi bonne scientifique qu'un homme, Alexandra Davinel, qu'une femme pouvait parcourir le monde, être la première femme occidentale à atteindre la capitale du Tibet, Simone de Beauvoir, que les femmes avaient la capacité à exister par elles-mêmes, à s'unir et à faire bouger la société, Toni Morrison, qu'une femme noire pouvait être récompensée du Nobel de littérature en mettant des mots sur la tragédie de l'esclavagisme et notamment sur la condition des femmes esclaves, Vandana Shiva et Arundhati Roy, que des indiennes pouvaient se rebeller contre la toute-puissance des hommes et la misère, Leila Slimani, qu'une femme pouvait remporter le prix Goncourt sans faire partie du sérail, toutes ces écrivaines, et je pourrais vous en citer des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers dont les noms ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Vous savez ce qu'elles ont réussi à créer ? Le désordre. Oui, j'accuse ces femmes et toutes les femmes écrivaines de donner un coup de pied brutal dans l'ordre établi qui permet de contrôler les dérives du monde et donc de créer le désordre. Vous ne pensez pas que la planète est assez gagnée par le désordre comme ça ? Faut-il en plus y ajouter ces coups de poing sur la table, ces exigences ? Ces injustices du passé et du présent exhumées, je vous le dis, si nous commençons à ouvrir la boîte de Pandore et à laisser les femmes écrire, le monde va devenir incontrôlable. Regardez, écoutez Victor Laszlo, elle n'hésite pas à nous menacer de son stylo, son arme, comme elle le qualifie elle-même. Lisez, écoutez Mona Chollet, elle a voulu détourner le mot pour le railler, mais je crois plutôt que son inconscient a parlé. Sorcière. Ces écrivaines sont de véritables sorcières et à ce titre, elles doivent être condamnées.
Je voudrais donc appeler Cécile Oumani.
Merci Madame la Présidente de me donner la parole. Vous ne connaissez peut-être pas Stella Nyanzi, poète ougandaise, universitaire et féministe. Elle vient de passer plus de 14 mois en prison dans des conditions particulièrement difficiles. Et quel était son crime ? Avoir écrit des poèmes. Oui, l'homme au pouvoir depuis 30 ans s'est jugé offensé, menacé par les mots de cette poète. Car Stella Nyanzi a choisi l'impolitesse radicale comme moyen pacifique de s'exprimer. L'impolitesse radicale n'est pourtant pas nouvelle en Ouganda. On célèbre encore aujourd'hui la mémoire de ceux qui ont inauguré la Radical Rudeness en 1940, du temps de la lutte pour l'indépendance. Mais Stella Nyanzi est une femme, et lorsqu'elle en use, le pouvoir la jette en prison. Écoutez-la parler de la vérité. La vérité est comme un grand ficus. Même après qu'on l'a abattue à la hache, une vigoureuse pousse jaillit de son tronc. La vérité reste, malgré les tribulations. La dictature me fait peut-être peur, mais de la vérité, je ne m'éloignerai jamais. Est-elle dangereuse, celle qui dit sa peur du dictateur et son attachement viscéral à la vérité ? Est-elle dangereuse, celle qui n'a pas vu ses jumeaux souffler les 10 bougies de leur gâteau d'anniversaire parce qu'elle était avec 71 autres femmes au fond d'une cellule si exiguë qu'elle devait se serrer les unes contre les autres, à même le sol, pour dormir? Qui d'entre nous n'a pas entendu parler de l'écrivaine Aslı Erdoğan, icône de la résistance contre le régime turc? Je connais Aslı Erdoğan depuis sa première publication en France en 2003. Je connais sa passion à défendre les droits humains bafoués, sa révolte face aux souffrances infligées à autrui, son courage à dire les ombres et les ténèbres, quel que soit le prix à payer. Depuis 17 ans, j'échange avec cette femme douce et souriante, dont la sensibilité exacerbée confère aux mots qu'elle écrit une grâce particulière. Rien n'échappe des noirceurs du monde aux yeux de celles qui parlent aussi avec ravissement de voyage, de danse classique et de littérature. L'acuité de son regard, portée chronique après chronique dans le journal Özgür Gündem, l'a jetée dans la prison de Bakırköy à Istanbul en 2016. Le régime avait décidé de la faire taire, de la réduire à l'oubli. Il fallait rendre ces mots inaudibles, invisibles, faute de pouvoir les effacer. Alors on l'a accusée d'activité terroriste. Menacée d'une peine à perpétuité, libérée de prison, depuis son exil, elle a attendu plus de 3 ans son procès. Tu te rends compte ? Plus de 1200 jours que ça dure, me dit-elle dans un texto. Lynchage médiatique, menace de mort. Voici ce que m'écrivait Aslı Erdoğan une nuit de février dernier où elle était rongée par l'angoisse. Pourquoi un régime puissant, tout puissant, prendrait-il tellement au sérieux une écrivaine solitaire avec un lectorat limité, suffisamment au sérieux pour envoyer contre elle ses forces de police, ses procureurs, ses agents secrets, elle ? Une femme qui ne pèse plus que 45 kilos. Il est impossible que ce soit moi qui leur fasse peur. J'espère que c'est la vérité dont ils ont tellement peur. Aurait-elle dû se taire, oblitérer l'horreur dans sa chronique sur le massacre de civils dans la ville de Cizre en 2016 ? Aurait-elle dû garder le silence et ne citer ni les rapports d'autopsie, ni l'os de la mâchoire de cet enfant brûlé, dernière trace de son existence et de sa mort ? N'a-t-elle pas choisi pour titre au livre qui réunit ses textes ce vers de Séphéris ? Le silence même n'est plus à toi. Qui oublierait Chaïma El-Sabag, poète égyptienne de 31 ans, abattue par la police au Caire le 24 janvier 2015. Elle vivait à Alexandrie, étudiait le folklore et écrivait de la poésie. Cette jeune femme, née dans une famille conservatrice, allait, cheveux au vent, fervente et passionnée, d'un café à un autre, se réunir avec d'autres poètes pour parler poésie et rêver un monde meilleur. Ce jour-là, Chaïma El-Sabag a pris le train pour aller au Caire, rendre hommage aux 800 morts de la révolution de 2011. Elle avait dit au revoir à son fils de 5 ans. Elle portait des fleurs qu'elle se préparait à déposer sur la place Tahrir. Et voici deux vers d'elle. J'étais debout au milieu de la rue à ramasser dans ma main les étoiles du ciel une par une. Moi, la fille à qui on a interdit de dire non. L'aube ne me manquera jamais. Celle qui portait des fleurs et rêvait d'étoiles dans ses mains ne verra plus l'aube se lever depuis qu'un fusil l'a fait taire.
Je vais appeler maintenant Marie-Rose Abomeau, qui est une poétesse franco-camerounaise.
Je viens ici pour vous dire que les femmes doivent écrire et doivent être dangereuses. Femmes. Je te l'ai dit à plusieurs reprises, les urines d'une femme ne peuvent pas passer par-dessus un tronc d'arbre. Laissez les hommes faire les choses et attendez qu'elles vous apportent ce dont vous avez besoin. Dans ce paquet, il n'y aura ni intelligence, ni savoir-faire, ni liberté, ni rien du tout, parce que une femme qui se respecte ne parle jamais au milieu des hommes. Ça, c'est acquis. Il venait de terminer son blâme de mal, sa parole de mal. Et il ajouta, j'ai parlé, on n'en reparlera plus jamais. Alors, les femmes ont vu arriver les missionnaires. Les missionnaires leur ont proposé la liberté catholique, la liberté protestante, la liberté des témoins de Jéhovah, la liberté de l'Église adventiste. Les femmes ont su attraper dans ces libertés quelque chose qui pouvait construire non pas leur liberté à elles, parce que pour elles, c'était presque tard, mais la liberté de leurs filles et de leurs petites filles. Donc, les petites filles ont été à l'école. Mais pendant que les petites filles allaient à l'école, les administrations ont changé parce que, à l'époque coloniale, l'homme avait peur de la prison. Et parce qu'il avait peur de la prison, il a laissé la fille aller à l'école. Voilà que les enfants du pays reprennent les choses en main et retrouve la phallocratie ancestrale de la parole ancestrale des hommes sages. Les filles à l'école, d'accord, mais on verra par où elles vont passer. C'est-à-dire que, étant donné que les filles n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins, on les met à l'école et les grands fonctionnaires de la ville viennent les faucher au fur et à mesure. Grossesse à 12 ans, grossesse à 15 ans. On veut avorter, on se débrouille seul et on vient rallonger la liste des décédés pour avortement. Je ne sais pas comment on dit ça, illicite ou dans la solitude. Voilà. Donc, le sous-préfet, ce que je veux dire, c'est que ce sont les hauts fonctionnaires qui, cette fois-ci, mettent la chape de plomb sur les jeunes. Celles qui réussissent à s'en sortir après combien d'épreuves? La femme n'a pas le droit de parler en public. La femme ne peut pas se frayer son chemin tout seul. L'homme se sent le droit de protéger la femme. En lui aliénant quoi? Sa liberté, son indépendance, pour qu'elle fasse le plus d'enfants possible. Mais quelques-unes ont réussi. Quelques-unes ont commencé à écrire. L'écriture est arrivée tard en Afrique noire. Moi, j'envie mes collègues qui parlent. C'est quelque chose de relativement récent. Je fais partie de la deuxième génération d'écrivaines. Pourquoi les filles doivent-elles écrire ? Pour casser absolument cette tradition ancestrale au proverbe mortifère. La femme ne parle pas en public. La femme n'est gentille qu'avec son amant. La femme ne produit que ce qu'elle peut donner à celui qui vient la voir dans la nuit. Rien de positif dans ce regard des femmes. La femme doit écrire et être dangereuse parce que ce n'est qu'ainsi qu'elle va ébranler les traditions. Il faut que la femme écrive pour ébranler les traditions. Je vous remercie.
Je vais maintenant appeler Sophie Bessis qui, je crois, va nous raconter une expérience tout à fait étonnante.
Merci, Madame la Présidente, de me donner la parole. Car il faut ici que j'insiste sur le fait que les femmes sont réellement dangereuses pour l'ordre patriarcal. Et à ce titre, si vous permettez, je m'inscris en faux contre les propos de Madame Alonso qui, à mon avis, sous-estime la dangerosité des femmes qui écrivent. Et c'est dommage, à mon sens, c'est dommage. Et pour ce faire, je vais vous raconter l'histoire de trois femmes. Trois Tunisiennes, il se trouve, excusez-moi, mais on regarde souvent de son côté. Trois Tunisiennes qui, cependant, étaient militantes des droits humains et militantes dans une très prestigieuse Organisation internationale des droits humains. Enfin, elle s'appelait Organisation internationale des droits de l'homme. Hein. Elle s'appelle Droits humains depuis assez peu de temps, en réalité. Et alors, dans cette prestigieuse organisation, elle s'occupait bien évidemment des droits des femmes, hein, parce que les messieurs qui étaient responsables de l'organisation leur déléguaient très très volontiers ce chapitre, dans la mesure où ils avaient des choses quand même beaucoup plus importantes, beaucoup plus sérieuses à faire. Et ces femmes donc s'occupaient des droits des femmes et ont constaté au fur et à mesure des années, à partir du début de ce siècle, que dans de nombreux pays, dans de nombreux pays du monde arabo-musulman, du monde musulman d'ailleurs en général, où les partis se réclamant de l'islam politique étaient arrivés au pouvoir, soit par des voies démocratiques, soit par des coups d'État, soit par des révolutions, ces arrivées au pouvoir mettaient en danger les droits des femmes là où elles en avaient acquis. Alors elles ont décidé d'enquêter d'abord et puis d'écrire. D'écrire un long document recueillant des témoignages et des résultats de documentation, etc. Elles ont écrit un document très épais, devait faire à peu près 200 pages, si mes souvenirs sont bons à l'époque, démontrant que les lectures les plus conservatrices des textes sacrés avaient un impact direct sur la situation des femmes. Évidemment, les études auraient pu se faire pour d'autres religions, parce qu'elles se valent toutes à ce niveau-là. Mais enfin, elles ont été faites pour les pays où les partis de l'islam politique étaient arrivés au pouvoir. Et ce document, fruit de 3 années de travail, devait être publié et largement diffusé par la prestigieuse organisation en question. Le président de la prestigieuse organisation lit ce document et l'enferme dans un tiroir. Alors ces femmes, et le cache en réalité. Alors ces femmes demandent quand même des explications parce que c'était le fruit d'un travail très long. La réponse d'abord, ce rapport est islamophobe. Alors parce que vous savez que quand des femmes issues des pays musulmans en l'occurrence et qui sont féministes et universalistes critiquent leur propre société, eh bien, elles sont traîtres à ces sociétés. Et donc, pour le coup, elles étaient islamophobes. Mais mieux encore, quand elles ont récusé ce terme, parce qu'elles ne l'étaient pas, bien évidemment, les responsables de cette prestigieuse organisation ont dit que c'était un document hautement politique, une affaire hautement politique. Et voilà comment une organisation dédiée à la défense des droits humains a sacrifié cet écrit de femmes parce qu'il était effectivement hautement politique et que les femmes n'ont pas le droit de s'occuper de politique. Et par ce témoignage, je voudrais conclure que ces écritures étaient vraiment dangereuses parce que ce document a mis en cause un ordre qui est un ordre dominant dans de nombreuses régions du monde et que donc le stylo, l'écriture est, contrairement à ce qu'avancent certains et certaines, l'écriture est une arme. Elle est une arme. Elle est une arme dangereuse. Et c'est pourquoi, Madame la Présidente, je vous demanderai de travailler à sa condamnation.
Alors, je voudrais maintenant appeler Marie-Josée Ali.
Je témoigne parce que j'écris. Je suis, comme nous toutes ici, à la fois la sœur, la mère, la fille, le miroir et le prolongement de nos accusés. Je suis aussi un des maillons de nos solidarités, du mystère de nos intimités. Je suis une subversive de l'écriture, on va dire. En marge de la grande avenue de la littérature codée, j'emprunte des chemins de traverse, des petites rues perdues qui butent sur les impasses et créent des respirations. Car là d'où je viens, mon pays caribéen, l'histoire tourmentée, l'écriture est essentiellement masculine, beaucoup en tout cas. Et ces hommes de plume nous ont regardé, comme s'ils attendaient, sans y croire, ce que mon imaginaire avait à dire au monde. Mais quelle arrogance a donc cette femme qui a commencé à nous emmerder en bousculant la routine bien tranquille du journalisme bien-pensant qui vivotait au rythme d'une parole dominée. Écrire le quotidien, Madame la Présidente, et le partager chaque jour en visitant les espaces cachés dont on n'acceptait que les lieux communs qui rassurent et abrutissent. À cela, j'ai dit non. C'était cela qu'on attendait de moi. Après quelques exils punitifs, mais très constructifs, j'aurais dû rentrer dans le rang. Que nenni, j'ai continué. Et je les entends, ces voix et le murmure qui vient après. Ne voilà-t-il pas quelle romance maintenant ? Mais pas pour nous raconter ce que nous sommes. Ce que nous sommes dans ce pays de misère ignorée, mais pour casser l'horizon, pour ouvrir un espace vertigineux. Danger, danger. Alors, j'existe en marge et en liberté, en défiant les codes de la créolité, alors que m'a-t-on reproché, sinon, de ne pas tremper ma plume dans le suc de la plantation. Je tourne autour de mon clocher, mais en larges cercles concentriques, très, très larges, qui me font effleurer le monde entier que je porte en moi, comme le disait une des accusées, l'Afrique, l'Asie, l'Inde, l'Europe, les peuples premiers. Et de la plantation esclavagiste, j'ai hérité d'une immense et intime souffrance, d'une grande colère, mais aussi d'une encombrante tendresse, car j'ai retenu, j'ai en mémoire, le geste large des femmes qui protégeaient l'enfant du viol colonial ou celui de l'amour de la même caresse. Et plus loin, plus profond, j'ai ressenti dans mon corps le bandage des pieds, l'élongation des coups, l'excision, les viols par temps de paix, les viols par temps de guerre, les viols par inadvertance, les mariages arrangés pour améliorer les affaires de famille, les voiles opaques pour m'effacer du paysage et protéger les hommes de la tentation. Je rirais hein, si cela n'était que pathétique. Le corset pour maîtriser mon tour de taille et m'offrir en victime d'une esthétique qui échappe totalement à mon désir. Les talons aiguilles pour me grandir et percher bien, bien haut l'inexistence présupposée de mon cerveau. Eh, vous riez, mais ainsi me voulait-on ? Occupée, débordée par les mille gestes qui habitent nos journées, par l'invraisemblable escalade à force de poignée, car j'ai refusé mon cul, que convoque le désir d'égalité dans le travail, dans la vie, dans la gestion du monde, dans le partage, tout en même temps, dans la même énergie. Mais qui donc est-elle, celle-là même qui nous chante aussi des paroles qui tentent d'attraper les rêves ? Veut-elle nous sortir de la voie royale qui a fait de bouts de papier et de bouts de métal les maîtres d'un monde où le pouvoir n'est que d'argent et de domination ? Danger, danger ! Je témoigne de tout cela pour elle, les accusés. Et c'est aussi en leur nom que j'ai répondu, que je réponds, mais qui donc êtes-vous pour me juger ? pour juger mes 5000 ans d'existence. Car aucune souffrance d'aucune femme depuis des millénaires ne m'est étrangère. Alors oui, j'écris à l'ombre de tout cela, ou à la lumière de tout cela. J'ai 5000 ans et j'écris vieille, alourdie d'une longue histoire. Ce témoignage, je l'offre à mes compagnes et sœurs de combat, vos accusées, si elles sont coupables d'être dangereuses, Madame la Présidente. Nous le sommes toutes et nous devrions le revendiquer. Je le revendique. Coupable, oui. Mais c'est peut-être un des rares cas de culpabilité qui exige de vous, le jury populaire, un verdict d'acquittement au nom du mieux-être de toute l'humanité.
J'appelle maintenant Lucine Nizar, qui est chercheuse en lettres modernes.
Alors, bonjour, Madame la Présidente. Je viens témoigner contre ce que d'aucunes ont ridiculement choisi d'appeler le matrimoine littéraire. Il n'y avait, et à raison, pas de mot pour désigner le patrimoine au féminin. Alors pourquoi cette pudeur du dictionnaire ? Eh bien, parce que le dictionnaire a été écrit par des hommes et que le matrimoine nuit, mesdames et messieurs, au patriarcat, forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes. Alors que les bavardes bavardent, que les jeunes filles babillent, que les poupées poupettent, oui, mais que les écrivaines écrivent, à ça, non. Un homme de lettres est un homme public. Une femme qui écrit est une femme publique. Nelly Arcand ne s'en est pas cachée dans son autofiction Putain. Les femmes qui écrivent nuisent à la famille. Colette a intitulé l'un de ses romans La Vagabonde. Les écrivaines sont bien souvent des vagabondes du patriarcat. Célibataires, sorcières, excentriques qui ne font pas bon ménage avec l'autorité masculine. Peut-on, je vous le demande, écrire un chef-d'œuvre en changeant des couches ? Laissons répondre les autrices elles-mêmes. George Sand a refusé de candidater aux élections de 1848 en avançant qu'une femme doit avant tout être mère. Harriet Beecher Stowe, dans une lettre à son mari sur ses enfants, écrit elle-même « Ai-je le droit de partager mes pensées entre eux et mon écriture ?» C'est le vieil adage latin « Aut liberi, aut libri » ou bien des enfants, ou bien des livres. L'alternative est exclusive et pour la perpétuation de l'espèce, je choisis les enfants contre les livres. Les femmes qui écrivent sapent les fondements du patriarcat, système où le masculin incarne à la fois le supérieur et l'universel, puisqu'elles démontrent que les hommes ne sont pas intellectuellement supérieurs aux femmes. Les précieuses revendiquaient déjà la féminisation autores, la femme qui écrit détient la auctoritas, l'autorité. Elles font la preuve qu'elles aussi savent persuader et même convaincre, comme Beauvoir, avec son deuxième sexe ratiocinant, qui correspond fort peu à la joliesse de son sexe. Plus insidieusement, les femmes qui écrivent créent une chambre à elles, un espace mental qui échappe au patriarcat, où elles peuvent vivre en dehors des règles masculines. Les femmes qui écrivent créent des mondes. La Genèse était jusqu'ici réservée à Dieu le Père et se créait à son image. Les femmes qui écrivent inventent, et c'est plus grave, une langue nouvelle qui bouleverse le paradigme masculiniste et sape le patriarcat dans sa source même, le langage qui présuppose et justifie, heureusement, les oppressions comme des données objectives. Enfin, je voudrais vous parler d'une chose terrible, d'une chose affligeante, d'une chose sinistre dont on a peu parlé jusqu'ici, une chose de plus en plus fréquente et contagieuse comme un virus. Vous savez de quoi je parle. Les femmes qui écrivent sont parfois lues par d'autres femmes. La menace est grande et vous pouvez trembler. Si les femmes qui écrivent et les femmes qui lisent en venaient à s'unir contre le patriarcat, passant du « je » au « nous », si lectrices et autrices prenaient conscience de leur sororité et vociféraient comme les guerrières de Wittig, je cite Wittig elle-même, Wittig. Elles disent « Je refuse désormais de parler ce langage. Je refuse de marmotter après eux les mots de manque, manque de pénis, manque d'argent, manque de signes, manque de noms. Je refuse de prononcer les mots de possession et de non-possession. » Elles disent « Si je m'approprie le monde, que ce soit pour m'en déposséder aussitôt, que ce soit pour créer des rapports nouveaux entre moi et le monde. » Alors attention, mesdames et messieurs les jurés, elles l'avouent elles-mêmes. Si nous n'arrachons pas la plume aux écrivaines, elles risquent de faire s'écrouler notre monde. Merci.
Nous arrivons maintenant peut-être au terme de nos témoignages avec Shala Shafik, excusez-moi, qui est une écrivaine d'origine iranienne.
Bonjour Madame la Présidente, bonjour le jury populaire. Donc je vais plaider pour une peine maximale et je vais aussi inviter le jury à faire preuve d'imagination. Parce qu'à partir de à la lumière de l'expérience iranienne, je vais vous montrer qu'on a fait tout pour brider un peu cet élan d'écrire chez les femmes. On n'y est pas arrivé, même avec les châtiments très imaginatifs. Donc vous allez voir, donc là, et c'est une histoire de tout un siècle, c'est plus d'un siècle, puisque quand on regarde nos pays, on a toujours, vous avez toujours idée que nous sommes des pays musulmans, donc l'islam devient l'identité de pays, donc une religion devient identité de pays. Donc, vous pouvez imaginer, ou vous imaginez toujours, que les femmes sont sous le voile, et donc elles sont des bonnes épouses et des bonnes mères, mais elles ne peuvent pas être des écrivains. Donc, détrompez-vous. Dès le 19e siècle, nous avons tué et mis en puits, c'est-à-dire jeté dans un puits, le corps d'une femme, d'une poétesse, qui a osé se dévoiler et parler devant une assemblée à visage découvert pour dire « je suis la verbe, je vais prononcer ma parole ». C'était la poétesse Babi, Tahereh Qurratul Ayn. Donc là, on a eu pire, on a eu une révolution en 1906 en Iran qui a demandé l'instauration de parlement et les droits démocratiques avec une tendance comme ça. Vous imaginez dans un pays qu'on imagine un pays affilié à une religion complètement schématisée. Donc on a eu ça, mais on a eu notre revanche. En 1979, on a pris notre revanche et on a eu notre république à nous, qui est la république dite islamique. Et ça, on a essayé quand même, on a fait un chef-d'œuvre. On a non seulement fait de l'islam, qui est une religion, une idéologie, déjà, on a aussi créé un ordre, tout à fait, c'est ce que ça a été explicité, on l'a fait, on l'a décrété au nom de la religion, et on a fait de voile, on est allé encore plus loin, on a fait de voile le drapeau de la révolution anti-impérialiste et anticolonialiste. Vous imaginez, sur le dos des femmes, et en plus, on les a bien formatées, ça veut dire qu'on a créé un groupe de femmes soldates pour cela. Ça veut dire les femmes, vous savez, le mot Hezbollah, le parti de Dieu, vient de nous, de chez nous. On l'a créé, on a créé aussi une brigade de femmes Hezbollah qui ont fait, quand même, qui ont réprimé les autres qui n'étaient pas d'accord. Mais ceci étant, il y a eu des soldats, mais il y a eu aussi des femmes rebelles qui ont continué à écrire. Nous sommes allés jusqu'à ôter d'une anthologie de la poésie le nom d'une grande poétesse du XXe siècle, Furugh Farrokhzad, dont la tombe devient un lieu de pèlerinage pour toutes les générations. Et les jeunes osent même aujourd'hui aller faire de pèlerinage sur sa tombe, à cette femme. Et parce qu'elle avait osé de faire un poème dans lequel il disait, je vous donne seulement une partie très petite qui dit l'ensemble, « J'ai fait un péché délicieux ». Donc effectivement, elle a été ôtée de cette anthologie, mais ça n'a rien fait. Il y a eu aussi une autre poétesse qui s'appelle Simin Behbahani, qui est la grande poétesse de l'Iran contemporain, et on a fait encore, et elle a osé parler de l'amour jusqu'à la fin de sa vie, et même elle a osé dire qu'à 80 ans, elle a dit « j'ai dépassé l'âge d'avoir peur ». Vous imaginez. Donc on a piétiné son testament, même le lieu où elle avait désigné pour être enterrée, on lui a interdit. On n'a pas laissé son corps reposer dans ce lieu, parce qu'on savait que les jeunes allaient en faire un lieu de pèlerinage. Donc, après cela, vous pensez qu'elles se sont calmées? Non. Le nombre des femmes qui font la poésie, qui écrivent des essais, de la littérature, etc., ça, ça s'amplifie en Iran d'aujourd'hui. Et non seulement le nombre des écrivaines augmente, mais aussi on arrive à un scénario encore pire. C'est que la plume devient une arme, même pour tout le monde. Ça veut dire, en fait, comme écrire ce qui se passe devient un délit, la plume est, ça s'implique à toutes les luttes des femmes. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a dans notre pays Nasrin Sotoudeh, l'avocate qui a été condamnée à 38 ans de prison et de la flagellation parce qu'elle a osé défendre les autres prisonniers politiques et des prisonnières politiques. Elle ose écrire de sa prison que je ne pourrai pas me réduire en silence parce que dans ce pays, on exécute les mineurs, on voile les femmes, etc., etc. Il y a aussi une autre femme qui a été condamnée à une longue prison parce qu'elle a osé se dévoiler dans le lieu public qui écrit de sa prison. Je me sens comme un oiseau libre qui s'envole vers l'horizon voulu de manière résolue. C'était le sens. Et tout ça, ça fait écho à un poème de cette Furu Farursat qui a été ôté de l'anthologie qui dit « Garde en ta mémoire l'envol, l'oiseau mourra. » On a récemment condamné une jeune étudiante du théâtre à copier 3 livres parce qu'elle avait osé écrire ou je sais pas ou faire puisque tout devient péché de toute façon quand vous mettez le dieu à toutes les sauces après tout devient péché. En fait, il y a la frontière entre le délit et le péché qui est complètement abolie. Donc, si vous voulez, Madame la Présidente, vous en tant que juriste, ça devrait vous intéresser aussi le jury. Donc, il n'y a aucune frontière entre le péché et le délit. Donc, tout est passible d'être sanctionné et châtié. Donc, cette étudiante-là, récemment, je viens de vous le dire, elle a été condamnée à copier 3 livres. Un de ces livres s'appelle « 3 minutes dans le jugement dernier ». Donc, il y a un roman écrit par des islamistes qui raconte tout ce qui se passera quand vous allez être dans le tribunal divin. Donc voilà, je pense que tout ça, ça a été complètement inutile. Donc je plaide pour que vous puissiez faire preuve d'imagination et trouver un châtiment inédit, s'il vous plaît.
Pour aider le jury à prendre sa décision, nous allons demander à Sylviane Giampino, donc qui est psychothérapeute et psychologue, de nous donner quelques armes pour mieux comprendre le fonctionnement des femmes écrivaines.
Peut-être aurait-il fallu d'abord s'assurer qu'un psychologue peut éclairer la question, notamment quand il s'agit de femmes écrivaines. Je crains que ça ne soit pas certain. Alors, à la demande du tribunal, du Parlement des écrivaines francophones, de l'Assemblée des femmes, j'ai pratiqué une expertise le 5 mars 2020 à 23h50 concernant mesdames Victor Laszlo et Suzanne Drassus. Leurs organisations représentatives sont évidemment impliquées. On peut aussi prendre en considération leurs éditeurs. Je ne développerai pas, comme le veut l'usage, d'une expertise médico-psychologique, les commémoratifs, les éléments bibliographiques saillants, les causes profondes, les causes éclenchantes, le bilan des tests. Le présupposé de cette expertise est clair. Les femmes qui écrivent et qui sont publiées sont-elles coupables ? Oui, car elles sont femmes. Les femmes qui n'écrivent pas sont-elles coupables ? Oui, pour les mêmes raisons. Mais une question se pose, est-ce que la culpabilité invoquée par des femmes à l'encontre de femmes serait du même ordre que celle que des hommes pourraient invoquer pour leur écriture ? La réponse est non. Tout simplement parce qu'à ma connaissance, aucun groupe d'hommes n'aurait eu l'idée de réunir un tribunal de justice sur la question « Les hommes qui écrivent sont-ils dangereux ?» Alors, il est, je crois, utile d'analyser, mais très brièvement, les justifications invoquées par les accusés relatives à leur passage à l'acte de l'écriture. Il a été question de vengeance, d'arrogance, de refus de l'autorité, d'appel au boycott. Il vint également de chercher à définir de façon précise leur type de personnalité, de pathologie, absence de discernement, trouble de la personnalité, hystérie, victime ou bourreau, argumente le ministère public. Le questionnement est plutôt, sont-elles conscientes, inconscientes, et donc pénalement responsables ou pas ? Je peux tenter de témoigner sur ces deux points après avoir rencontré longuement les deux accusés. Comme chacun le sait, ce qui aujourd'hui permet au niveau international de déterminer qui est fou et qui ne l'est pas, et de quel type de folie il est atteint, est une nosographie internationale très longuement élaborée depuis une cinquantaine d'années par d'éminents spécialistes, et nous avons vu tout à l'heure à quel point la science éclaire la connaissance des femmes. Il s'agit du DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, en anglais, ça se dit à l'envers, élaboré par la fameuse American Psychiatric Association, APA. APA, a-t-elle, a-t-elle pas, on y revient. Or, comment fonctionne le DSM ? Le DSM considère, et là je suis sérieuse, comme trouble toute anomalie comportementale statistiquement déviante par rapport à la norme, calculée sur une estimation de fréquence de ce trouble et sa comorbidité sur la population générale. Dit plus simplement, tout comportement qui dévie de la norme est considéré comme anormal. Reste à estimer donc le pourcentage de femmes qui écrivent dans le monde par rapport à celui des femmes qui n'écrivent pas. Et puis plus précisément, celles qui écrivent quoi ? La liste des courses, le post-it mental pour alléger la charge, les journaux de suivi du développement des enfants, de leurs premiers mots, de leurs premiers pas, les journaux intimes. Mais restons-en là, ne considérons que les femmes qui écrivent et qui sont publiées. Il est clair que leur nombre est largement minoritaire par rapport au nombre total de femmes. Donc, selon le DSM, version 5, elles sortent de la norme et sont donc atteintes d'un trouble. La seconde question qui m'est adressée alors par le tribunal est d'évaluer dans quelle mesure la personne était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Je fais référence à l'article L122.1 du Code pénal modifié par la loi 2040-896 du 15 août 2014, article 17, pour établir la responsabilité pénale. Ça, c'est vrai. Alors, sont-elles responsables ? Suite à ce que je viens d'indiquer, selon le DSM, c'est un fait. On peut conclure que les femmes qui écrivent et sont publiées ne sont pas en état de conscience de la gravité de leurs actes et peuvent néanmoins être considérées comme pénalement responsables. Il nous faut alors prendre en compte dans cette expertise l'article suivant, le 122-2. N'est pas pénalement responsable la personne qui agit sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. Est-ce que les femmes qui écrivent et sont publiées n'écrivent que sous l'emprise de leur éditeur, voire sous la contrainte de mouvements féministes ? Ajoutons l'article suivant, le 122-4, je cite, « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. » Dès lors qu'une femme écrit sous la commande, disons, d'un éditeur, elle n'est pas responsable, mais à la condition que l'acte commandé soit légal. On en vient donc logiquement à la question suivante. Est-il légal qu'un éditeur demande à une femme d'écrire, sachant que les femmes qui écrivent et sont publiées sont coupables, comme rappelé ci-dessus ? On comprendra alors, en tout cas, que les éditeurs, pour éviter ce risque d'illégalité, ne publient que des hommes. Mais alors, est-il légitime que des femmes soient éditrices ? La question ne s'arrête pas là. L'article suivant, le 122-5, précise « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité et la légitime défense d'elle-même ou d'autrui. Sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Il y a donc évidemment cette précieuse condition dans la justice, la proportionnalité de la peine et de l'acte, qui se mesure donc, on l'a vu, dans l'écart à la norme. Ainsi, dès lors qu'une femme écrit normalement pour défendre la nature, les animaux, les enfants, la gravité pour elle et ou l'éditeur peut être amoindrie. Elle peut donc naturellement bénéficier de circonstances atténuantes, atténuant sa pathologie dans la mesure où elle rejoint la norme. Soit. Mais écrire et éditer un roman, de la poésie, un essai sur la sexualité des couples, des publications scientifiques, des analyses artistiques faisant avancer les idées, la science, la culture, la rébellion, l'humour, la satire, les femmes et ou leurs éditeurs encourent des peines, donc. Car les voici sortis des domaines statistiquement autorisés, puisque non représentatifs de la population générale, et pour que le moyen de défense employé ne soit pas disproportionné, il devra s'accommoder des formes normées. Écriture ronde, souple, discrète, déférente. Or, nous avons entendu les accusés revendiquer d'être des dangers utiles pour les sans-voix, écrivent-elles, d'utiliser leurs plumes pour dire ce que personne ne veut entendre. Curieux, non ? Un petit signe de paranoïa ? Plus encore, sur cette légitime défense, certaines argumentent leur légitime colère, la légitime défense de celui qui accomplit l'acte. Définition. On notera, selon l'article 122-6, j'ai eu de la lecture cette nuit, est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, ou pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. Ainsi, n'est pas pénalement responsable, car en état de légitime défense, toute femme qui écrit dans une chambre à soi, la nuit, à son corps défendant, mais au prix, évidemment, circonstances atténuantes, mais au prix de l'abstinence. On en vient à la question centrale, leur dangerosité. Depuis la loi du 25 février 2008, la protection du corps social est devenue une priorité dans notre pays. On me demande, en tant qu'experte, de définir le taux de dangerosité des femmes qui écrivent. Dans cette loi dite de prévention de la délinquance, il ne s'agit plus seulement de punir des comportements dangereux, mais aussi de prévenir un nouveau passage à l'acte que le diagnostic de dangerosité permettrait de pronostiquer. Une mesure de sûreté peut donc également être prononcée à l'encontre de celui qui a été jugé responsable pénalement pour cause de troubles psychiques ou neuropsychiques. Et la prévention du risque futur se fonde donc sur son seul état mental qui autorise aujourd'hui, par crainte d'une rechute dans l'avenir, des mesures, c'est la loi, des mesures de protection de la société. Sachant que les femmes qui écrivent sont publiées sont naturellement féminines et hors normes, et que toute folie est à ce titre supposée dangereuse, se pose alors la question de la nature des mesures de sécurité à prendre pour éviter une récidive. Je me permets d'en suggérer deux. Sanctions classiques, mécaniques. Interdire les serrures des portes des habitations d'une femme qui a publié. C'est dissuasif. Elle ne pourrait plus prétendre à une effraction si quelqu'un entre dans la pièce où elle écrit, ne pourrait ainsi plus s'abriter derrière l'article 122-6 pour prétendre à la légitime défense et tomber sous le coup d'une sanction pénale. Sanction moderne, la deuxième, plus technologique, l'obliger à porter un bracelet électronique. Ainsi, il serait possible de vérifier qu'elle ne se rend pas à une manifestation de mouvement féministe dans un lieu la mettant sous emprise d'incitation au passage à l'acte d'écrire, université, équipement culturel, académie, assemblée, sénat, qui pourrait l'inciter à récidiver. La Cour notera l'incontestable progrès dans la tolérance des mesures. La ceinture de chasteté est remplacée par le bracelet électronique. Au lieu d'interdire tout rapport avec un homme ou une autre femme, il ne s'agit plus que de préserver l'ordre public en évitant les rassemblements féministes, intellectuels, contestataires et artistiques, les plus dangereux peut-être. En conclusion, pour les nombreuses raisons indiquées ci-dessus, j'invite la Cour à conclure que les femmes qui écrivent et qui sont publiées ne sont pas pénalement responsables, mais à prendre des mesures de sécurité aptes à éviter les risques de récidive, même pour celles qui ne sont pas encore dangereuses. Par exemple, ne jamais leur dire qu'elles ont un esprit pour créer, des mains pour écrire, et des jambes, car le bracelet électronique se porte aux pieds, des jambes grâce auxquelles elles pourraient en plus désormais se lever et se casser.
Je crois qu'il va être temps maintenant pour le jury, puisque vous êtes jury populaire, de répondre à ces deux questions et de voter donc. Les femmes sont-elles coupables et quelle sentence si vous déclarez qu'elles sont coupables.
Madame Laurence Rossignol pour le verdict.
Est-ce qu'elles sont dangereuses pour l'ordre patriarcal? Quel est votre avis? Les femmes qui écrivent sont-elles dangereuses pour l'ordre patriarcal? Elles sont dangereuses pour l'ordre patriarcal. Faut-il les condamner? Y a-t-il une culpabilité à établir? Faut-il condamner ces femmes dangereuses pour l'ordre patriarcal? Qu'en pensez-vous? Celles qui et ceux qui veulent non, levez la main. Très bien, donc à l'unanimité. Donc, ces deux accusées sont dangereuses. Le pire, c'est qu'elles le revendiquent. Levez-vous, les accusées. Elles sont dangereuses, subversives, et le pire, c'est qu'elles le revendiquent, ce qui aurait pu être une circonstance aggravante. Est-ce que vous êtes acquittées? Oui. Par le jury unanime.
Le grand procès des écrivaines était organisé par l'Assemblée des femmes et le Parlement des écrivaines francophones.